Réplique, la place de l'humour dans la France d'aujourd'hui, avec Frédéric Becbédé et Philippe Val. Pour ouvrir cette conversation entre Frédéric Becbédé, dont le nouveau roman a pour titre un smiley, comme je crois qu'on dit, et Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, qui a publié il y a peu un long et passionnant récit autobiographique, Tu finiras clochard comme ton Zola. Je voulais faire entendre la chronique qui a fourni le point de départ au livre où nous prévient Becbédé, toute ressemblance avec des faits réels ou des personnalités existantes pourrait révéler les limites d'un auteur sans imagination. Mais cette chronique est un peu trop longue pour une présentation. Alors je demanderai à Octave Parango, alias Frédéric Becbédé, à moins que ce soit le contraire, de nous raconter ce qu'il appelle lui-même son sabordage en direct. Que s'est-il passé ce matin-là, sur France Inter?
Alors, je suis arrivé sans texte. Normalement, ce qui se passe, c'est que les humoristes de 8h56 arrivent avec une feuille de papier qu'ils lisent en essayant d'être le plus naturel possible et souriant et frais, malgré l'horaire. Et là, c'était un peu l'inverse. Il faut dire que je n'avais pas de texte. J'avais donc pas mal bredouillé en direct. J'ai demandé aux participants à quelle heure ils s'étaient couchés, s'ils étaient contents de leur matinale qui se terminait, et des questions météorologiques aussi, un petit peu en comme ça, avec des moments de flottement. Je pensais sincèrement que c'était une expérience à tenter de sortir de la discipline et du professionnel, d'être un peu oisif et incompétent pour changer, tout simplement, pour essayer autre chose. Ça n'a pas été très concluant puisque j'ai été remercié en direct par l'animateur.
Oui, alors donc, vous dites, je crois, que vous avez perdu votre texte. Mais ça, ce n'était pas vrai.
Vous aviez
choisi, effectivement, de venir sans texte et oui, d'improviser à vos risques et périls.
Bon, en fait,
tenter une expérience.
Donc, pour avoir une conversation normale, humaine, ce qu'on fait quand on arrive dans un endroit et qu'on voit des gens, on leur demande s'ils ont bien dormi, en gros. Et si ça s'est bien passé, et qu'est-ce qu'ils font après. Les questions, en fait, de la vie quotidienne. Au lieu de refaire toujours un peu le même billet sur un événement de l'actualité, de la veille. Bon, et c'est vrai que c'était pas très sérieux, c'était même peut-être très paresseux. Mais après, ça a déclenché un phénomène qui s'est passé en deux temps. Il y a eu d'abord la meute, votre chère meute, qui a réclamé ma tête.
Et puis c'était ensuite, qui la meute?
Beaucoup d'emails qui ont été envoyés à la médiatrice de
France. Ah oui, des emails d'auditeurs qui se disaient, voilà, beaucoup se fout de notre gueule.
Oui, quoi. Oui, c'est vraiment n'importe quoi, avec nos impôts en plus.
Ah oui.
Et puis la deuxième étape, c'est assez rapidement un coup de téléphone pour me dire qu'on arrêtait la chronique. Oui. Ce qui est pas très, enfin, ce qui est peut-être normal, je sais pas. Ce qui m'a surpris, en fait, c'est que j'ai entendu récemment un chroniqueur qui s'exprimait de façon anonyme. Parce qu'en ce moment, les gens n'ont pas trop le droit de parler de ce livre sur France Inter, qui disait « Oui, Becbédé a fait de la merde, il a été viré, c'est normal ». Ça m'a surpris parce que y a une grève, comme vous le savez, à Radio France, où on réagit contre la suppression de 200 postes. Mais alors, donc, ces gens ont légitimement raison, d'ailleurs, de s'élever contre ça. Mais quand moi je suis viré, tout d'un coup, les rebelles deviennent ultra-libéraux et estiment que c'est, alors là, pour le coup, pas du tout une raison de faire la grève.
Alors, Philippe Val, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été directeur de Charlie Hebdo. D'ailleurs, nous en parlerons. Journal satirique, journal voué à l'humour, mais aussi directeur de France Inter. Et d'ailleurs, à la fin de votre livre, Tu finiras clochard comme ton Zola, vous parlez de cette expérience assez étrange. Vous dites d'ailleurs qu'elle mériterait un anthropologue. Mais imaginez que vous ayez été encore directeur de France Inter le jour où Becbédé fait cette chronique. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous le convoquez dans votre bureau pour lui remonter les bretelles? Est-ce que, devant l'abondance de ce courrier mécontent, vous le congédiez? Voilà. Philippe Val, directeur de France Inter, que fait-il?
Alors, c'est un peu comme quand on vous demande, pendant la guerre, est-ce que vous auriez été résistant ou collabo?
Oui, mais enfin... C'est vrai.
C'est à peu près vrai que c'est aussi grave.
On peut avoir la gravité en... Enfin bon,
oui, parce que résistant collabo, c'est aurais-je eu le courage de risquer ma vie.
Je me suis séparé, c'est le cas de le dire, c'est un euphémisme, d'humoriste, plutôt pour ce qu'ils avaient dit que pour ce qu'ils n'avaient pas dit. En l'occurrence, Frédéric Becbédé n'a pas dit grand-chose. À ce moment-là, il a exprimé quelque chose, il a exprimé un vide. Je pense honnêtement que je l'aurais convoqué dans mon bureau et je lui aurais dit enfin, quelqu'un qui sait faire des choses comme tu sais faire, c'est quand même un peu dommage de griller les 3 minutes, profites-en, la personne a compris, le minimum c'est d'être compris, enfin la majorité n'a pas compris. Je ne sais pas, mais je pense que je l'aurais pas viré parce que j'écoutais ses chroniques inégales, mais j'aimais leur inégalité. J'aimais le fait qu'il soit extrêmement fragile, alors que ses collègues sont extrêmement solides. Ils sont appuyés sur une opinion, ils sont appuyés sur une esthétique, si on peut dire. Ils sont appuyés par une pensée commune, sur une pensée commune qui les renforce. Et Frédéric était dans la fragilité d'une feuille au vent, et j'aimais beaucoup cette fragilité, je la trouvais assez poétique. À la fin d'un 7-9, qui est un exercice sérieux, une messe, un rituel. Et sa chronique n'était pas un rituel. Et je pense que l'humour ne peut pas être un rituel. L'humour est une surprise. Et je trouve que ce qu'il faisait relevait davantage de l'humour que certains de ses collègues qui sont étiquetés humoristes, mais qui sont peut-être pas humoristes. Ils sont autre chose, qui peut se défendre, mais humoriste, j'en doute.
Alors oui, alors, c'est vrai, je trouve que votre expression est très juste, Philippe Val. Il y avait une fragilité, puis moi j'aimais le gimmick. Bonsoir, c'était merveilleux.
Ça faisait beaucoup rire aussi.
Bonsoir, j'aimais ça à chaque fois. J'aimais le spa acoustique aussi, qui d'ailleurs est intervenu lors de cette émission,
je crois. Oui, ça permet de meubler le vide.
Voilà, ça meublait le vide, et tout d'un coup, l'expérience du vide... à la radio, à la fin d'un 7-9 très très sérieux, et dans la radio qui aime à dire qu'elle est la plus écoutée de France, j'ai trouvé que ça révélait un culot assez extraordinaire. Mais venons-en maintenant à la place de l'humour dans la France d'aujourd'hui, et notamment dans les médias d'aujourd'hui. Vous venez de dire, Philippe Val, l'humour est une surprise, c'est parfois même une surprise pour celui qui fait un bon mot ou une blague. Moi, on me reproche parfois de rire à mes propres blagues, ce qui est un peu mal élevé, c'est vrai, mais parce que j'ai l'impression que l'humour m'arrive. C'est pas une décision que je prends, ça me tombe dessus. Et donc je ris, parce que tout d'un coup, mais en même temps, justement, c'est une surprise pour les autres, c'est une surprise pour moi, et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est la professionnalisation de l'humour, premièrement, et aussi sa présence quasi permanente. Mmh. Alors, est-ce que, Becbédé, vous n'avez pas fait aussi cette émission pour dire « je me retire du jeu ». C'est un peu trop, je veux dire, je veux pas être un humoriste maison quand l'humour scande à peu près toutes les émissions de la journée.
Il y a au départ du livre, en tout cas, une lassitude. On sent qu'Octave Parangot en a marre de faire ce métier. Il a fait ça 3 ans. Alors, en dehors du fait que ça l'oblige à se lever tôt, ce qui est pénible, on sent bien qu'il y a une lassitude. Et ça, c'est tout à fait juste. L'humour peut-il être discipliné? Est-ce que arriver tous les matins avec son petit billet bien envoyé, avec des petites vannes, ça n'est pas aussi, d'une certaine manière, totalement déprimant? Et puis, oui, ce qui me gêne, moi, c'est, comme vous dites, l'humour, c'est un accident. Ça ne s'organise pas. Or, quand il y a des blagueurs à toutes les heures de la journée, et ça ne concerne pas que France Inter, j'ai travaillé à Canal+ auparavant et j'ai vu ça également, finalement, on a l'impression qu'il y a un humour de fond, comme un bruit de fond, comme des musiques d'ascenseur, si vous voulez. Et qu'à la fin, ça donne plutôt envie de faire la gueule, à force d'entendre tous ces gens qui veulent tellement provoquer un accident. On n'organise pas un accident. C'est ce que dit Bergson, d'ailleurs. Pour Bergson, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Ça veut dire qu'on voit quelque chose qui, soudain, dans le réel, nous étonne, nous paraît absurde ou ridicule. Et là, on se marre. Mais c'est quelque chose d'imprévu. L'humour prévu à heure fixe et à horaire organisé, il y a quelque chose qui ne va plus et qui, en plus, alors c'est un peu la thèse défendue par ce cher Octave, en plus, dans une époque et dans une société sans idéologie, sans idéal, cet humour omniprésent prend le pouvoir et devient le pouvoir central.
Oui, vous dites, il y avait le bouffon du roi et maintenant le bouffon est devenu roi.
Oui.
Et c'est lui qui organise les plaisirs.
Mais en vérité, ça se constate véritablement par des élections de comiques à la tête de pays. On n'est plus en train de parler de choses... de théorie, là. Il y a véritablement un comique qui est président de l'Ukraine, un autre comique qui a gagné les élections en Italie, Beppe Grillo, et puis vous avez un pareil en Slovénie, et on peut presque dire que Boris Johnson est élu aussi parce que c'est un clown.
Boris Johnson faisait des blagues, il jouait les clowns, mais enfin, dans une conférence en Australie, il a récité un nombre considérable de vers de l'Iliade en grec. Donc, il ne fait pas non plus oublier sa culture. Et la comparaison entre Trump et Boris Johnson me semble assez injuste pour Boris Johnson, parce que Trump, lui, affiche son ignorance totale. Il a peut-être de bonnes intuitions politiques, j'en sais rien. Mais c'est pas tout à fait le cas de Boris Johnson.
Non, mais ce qui est intéressant, voilà pourquoi c'est que voilà, dans les grandes démocraties, on est face à un problème parce que quand on doit débattre avec un clown, forcément la personne sérieuse tout de suite devient sinistre et on a envie de voter pour l'autre.
Oui, Philippe Val, vous vouliez intervenir.
Oui, on ne doit pas réagir nerveusement aux mails d'auditeurs. Je m'en étais fait une règle. J'avais lancé et produit une série de nombreuses émissions dans le plus grand mystère. J'avais caché à toute la chaîne que je préparais ça avec Zabou Bretman et Laurent Lafitte. On avait fait une émission qui s'appelait « À votre écoute, coûte que coûte » et qui m'a valu un millier, peut-être 2000 mails d'insultes dès le premier jour avec toutes les organisations représentatives de minorités ou de communautés. Et ça s'est arrangé, ça s'est arrangé. Voilà, il faut que l'humour vraiment soit une surprise. Et quand Frédéric vous dites que on est dans un siècle sans idéologie, tu vois, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que l'humour précisément est extrêmement idéologique et que s'il n'est pas idéologique, c'est-à-dire prévu, programmé, avec ses têtes de Turc officielles, il n'a pas droit de citer. Il ne vient pas chez Yann Barthès, il vient pas chez France Inter, il vient pas là au Place to Be. Il n'y va pas. Il y a un conformisme de l'humour, enfin de ce qui est affiché comme étant de l'humour une fois de plus, qui est au contraire très idéologique.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que quand on dit avec nos impôts, quand les mails disent avec nos impôts vous payez ça, oui, mais avec vos impôts vous payez un humour dont les frontières idéologiques vont de la France insoumise au Parti communiste. Et tous les Français payent pour 3 ou 4% de la population qui adore ça.
Oui, c'est un conformisme déguisé en impertinence.
C'est ça.
C'est vrai. Et un peu aussi, il arrive qu'on rit avec les loups. C'est-à-dire, on rit de la situation de Balkany. Il a une occlusion, il est à l'hôpital, mais tout le monde s'en fout, c'est bien fait pour lui. Et moi, ce qui me frappe aussi, pour aller dans le sens de Philippe Val, en fait, c'est, avec cet humour omniprésent, la réduction du territoire du risible. C'est-à-dire, on ne rira pas, par exemple, de celles et ceux dans tous les discours. Or, ça prête à rire, celles et ceux, de la féminisation des noms. Écoutez, Mona Ouzouf m'a dit l'autre jour qu'elle a vu dans un journal suisse les nazis et les nazis, IES. Elle a lu aussi le massacre des juifs et des juives. Mais ça donne envie de pleurer, mais c'est absolument tordant aussi. On n'ira jamais du sigle LGBTQI, par exemple. Donc, on ne rira jamais de la violence du rap, de l'homophobie, du sexisme du rap, ou de la débilité du rap. Ce serait absolument impossible. Je ne donne là que quelques exemples. Donc, c'est vrai, cette société est un peu nihiliste, Becbédé a raison, et en même temps, elle affiche son progressisme. Et d'ailleurs, la directrice de France Inter a dit à plusieurs reprises qu'elle dirigeait une radio progressiste. Elle l'a dit à Yann Barthès, et elle l'a dit dans un entretien aux Échos. Oui, nous ne sommes pas une radio de gauche, mais nous sommes une radio progressiste, nous défendons les valeurs progressistes. Et là, on se dit, justement, avec les impôts, tout le monde n'est pas progressiste, au sens que le mot a pris aujourd'hui.
Frédéric, peut-être sur ce point-là, je voudrais quand même défendre Laurence Bloch, puisqu'elle m'a embauché. Donc ça veut dire qu'elle savait qu'elle embauchait quelqu'un qui travaille au Figaro Magazine et qui écrit des livres satiriques. Et donc, je pense qu'ils ont conscience du problème. Et j'en ai parlé souvent avec des gens de France Inter. Ils savent que c'est un peu trop uniforme. C'est pourquoi, par exemple, celui qui me remplace, Chris Esquer, ne fait que de l'humour absurde et complètement surréaliste. Et je crois qu'ils essaient un petit peu d'être éclectiques. Et c'est vrai que sinon, et oui, pour l'instant, ça n'est pas encore tout à fait au point. C'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, qu'il y a des boucs émissaires. Moi, c'est quelque chose qui me dégoûte quand on entend toute la journée du mal de la même personne qui vient d'être incarcérée, par exemple Carlos Ghosn ou Patrick Balkany. Mais il y a d'autres exemples. Je parle dans mon livre d'un billet d'humour avec Marine Le Pen, où Marine Le Pen n'ayant pas voulu rester dans le studio, on met un barbu avec une perruque blonde pour écouter la chronique à sa place. Rachida Dati qui est parti. On sent que c'est toujours un peu quand même orienté dans le même sens.
Il y a aussi un épisode que vous racontez qui est absolument stupéfiant, c'est le sort réservé à Darmanin.
Oui,
qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors ça, moi, j'ai trouvé que c'était une ignominie, je le dis, parce qu'il venait d'avoir un non-lieu après une plainte pour viol. On ne peut pas trouver plus grave pour un homme politique. Et immédiatement, les comiques ont rappelé ça, en rappelant qu'il avait eu une plainte pour viol. Ils ont dit qu'il avait eu un non-lieu, mais je veux dire, c'est rappeler à tous les auditeurs ce que Darmanin aimerait faire oublier, sans doute. Et donc il y a quelque chose...
Et surtout, Darmanin a été extraordinaire, parce qu'il a dit « Tout est possible, puisque vous êtes des comiques ».
Oui.
Ce qui était quand même une assez belle réponse.
La réalité, c'est qu'on sent qu'il est impossible de répondre aux humoristes, mais ça ne concerne pas que France Inter. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a quelque chose de totalitaire là-dedans, ou en tout cas, quand un discours ne peut pas avoir de réponse... C'est un problème. C'est là où il faut se demander. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que vous êtes la seule et la première émission à m'inviter depuis la sortie de ce roman qui est sorti le 2 janvier. On est le 18 janvier. Bon, il y a beaucoup d'auteurs qui publient des livres et qui seront invités beaucoup plus tard. Je suis très heureux, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est tout de même un petit peu étrange.
La seule émission sur Radio France, vous dites?
Oui, exactement.
D'accord.
Silence radio, des consignes de la direction sont données pour ne pas parler du livre, ce qui prouve quand même une bizarre absence d'ouverture d'esprit de la part de la radio la plus tolérante.
C'est-à-dire que surtout, on a l'impression que les rieurs n'aiment pas même être l'objet de l'humour. Ils n'aiment pas qu'on rie d'eux.
Non.
Oui, Philippe Arles.
Moi, je suis friand de la rigolade. Je cherche des choses drôles pour me nourrir aussi dans la littérature ou dans le spectacle. Et j'ai vu tous les films de Lubitsch, pour moi, qui sont les merveilles d'invention et d'élégance et de rire à se rouler par terre.
Et, Shop Around the Corner,
voilà,
un des plus beaux films de l'histoire du monde.
Voilà. Et je voudrais dire une chose, c'est que le pamphlet a été un genre mineur dans la littérature pendant très longtemps. Il a eu vraiment une grande vogue pendant l'affaire Dreyfus. Je dis pas évidemment que tous les pamphlétaires sont antisémites, mais le genre pamphlet porte en lui l'antisémitisme comme la nuit et l'orage. Bon, avant la Seconde Guerre mondiale, le pamphlet est devenu un genre littéraire à part entière, grâce notamment à Céline. Le pamphlet consiste à faire sortir l'autre de l'humanité. C'est ça le pamphlet. C'est une forme, entre guillemets, comme on dit maintenant, d'humour, qui consiste à faire sortir l'autre de l'humanité. Les années 30 ont été travaillées par le pamphlet. Et c'était un terrain préparatoire au pire. Après la guerre, on s'est dit, faut qu'on fasse une société différente. Je pense que le pamphlet aujourd'hui est revenu dans toute sa force. Et quand vous parlez des gens qui sont des têtes de turc de chez les humoristes, ça relève du pamphlet. C'est profondément d'extrême droite.
Alors que ça se veut d'extrême gauche,
bien sûr,
que vous dites.
Mais c'est profondément d'extrême droite.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. le pamphlet veut sortir de l'humanité. Alors je reviens sur ce terme de progressiste, donc revendiqué quand même par la directrice France Inter, même si elle essaye de contrebalancer cette tendance, mais le progressisme n'a qu'un adversaire, le réactionnaire. Et qu'est-ce que le réactionnaire ? C'est le survivant déplorable d'un monde condamné. C'est un vivant qui ne sait pas qu'il est mort. Donc, il y a quelque chose là d'une sortie de l'humanité, c'est vrai.
On voudrait un monde sans lui.
Voilà, on voudrait un monde sans lui. Il est là, c'est pas un accident, mais c'est un scandale.
C'est ça.
Son existence est un scandale, d'accord. Mais alors, vous parliez du pamphlet, Philippe Ball, mais il y a aussi ce genre de la satire. Et vous avez dirigé un journal satirique, qui était quand même condamné à la blague, au dessin souvent méchant, parce que un dessin satirique n'idéalise pas son objet. Hein, c'est pas du Botticelli. Comment vous débrouillez-vous avec ça, avec cette contrainte d'être drôle et aussi, journal bête et méchant, cette contrainte d'être méchant. C'est pas le pamphlet, mais ça vous enfermait malgré tout.
C'est vrai, et c'était très difficile. Ça faisait le sujet d'énormément de discussions en conférence de rédaction, de dessins refusés qui provoquaient des scandales au sein de la rédaction, de dessins qui passaient et qui étaient parfois très injustes. On essayait de faire en sorte que la caricature soit polémique et non pas pamphlétaire. Parce que la polémique fait rentrer l'autre dans le débat. Il, d'une certaine façon, il lui accorde en permanence son humanité et le droit de répondre d'une certaine façon. L'idéal de la caricature, c'est une caricature qui est polémique. C'est pas une caricature qui est pamphlétaire.
Vous arrivez à maintenir la
frontière. C'était très difficile, on n'a pas réussi toujours.
Non, vous réussissez
pas toujours. Je voudrais dire quelque chose sur Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo est clairement un endroit estampillé humour noir, sarcasme, bêtise et méchanceté.
Transgression, oui, sur la mort notamment.
Bien sûr.
Ce qui est plutôt bien, enfin.
Plus c'est violent, plus c'est drôle, plus c'est absurde et plus c'est bête, mieux c'est. Et on va acheter Charlie Hebdo en sachant où on va. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un endroit d'information, de très grande écoute, qui est le 7-9, de la radio leader sur les ondes. Et dans cet endroit, on glisse des pastilles humoristiques presque mélangées au sérieux. Et c'est ce mélange, à mon avis, des genres qui peut-être est dangereux. C'est ce que les Américains appellent « infotainment ». On se retrouve à finalement avoir... Moi, par exemple, j'ai vécu ça. Je me suis retrouvé face à face avec Emmanuel Macron en train de lui demander l'adresse de son dealer parce qu'il avait fait un discours où il avait une voix au perché. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est sain qu'on en vienne à ce genre de situation finalement bizarre? Est-ce que ça, c'est pas ça? Est-ce qu'il faudrait pas séparer les choses? Charlie est un endroit séparé du reste.
Et alors là, de toute façon, là, évidemment, vous étiez vous-même le bouffon du roi qui prenait sa place.
Oui, bien
puisque
sûr.
Puisque vous moquiez de lui et il n'était pas dans la possibilité de répondre vraiment. S'il répondait sérieusement, il se ridiculisait et il pouvait pas non plus adopter le ton de la blague.
Alors il a très bien
ça
répondu. Il a fait une bonne vanne. Il a répondu lui, il était comme ça de naissance.
Ah oui.
Il n'avait pas besoin de prendre de produits.
C'était la potion magique.
Voilà.
C'était Obélix qui était tombé dedans, quoi.
Mais exactement. Mais je voudrais dire aussi c'est intéressant sur le pamphlet. Moi, il me semble que ce qu'on voit là comme type d'humour, c'est plus proche du roman engagé. Moi, je trouve que les romans engagés sont manichéens, on crée des personnages vraiment très méchants, il y a le bien, il y a le mal, et le bien doit triompher.
Voilà.
Et en fait, ce que je n'aime pas dans le roman engagé, c'est justement ce côté prévisible, ce côté où chaque personnage est déterminé. Et c'est peut-être ça le problème de l'humour engagé. Évidemment, on cherche toujours à démontrer quelque chose. Et voilà, moi j'aime l'indiscipline. Je crois que la vraie liberté, c'est qu'on soit pas militant. Au fond, c'est peut-être le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont un message à faire passer. Quoi.
Et un message qui est toujours le même, parce que parmi les choses dont on ne rit pas, personne ne songerait sur France Inter ni même ailleurs à rire de la dévotion planétaire dont est l'objet une adolescente suédoise qui a déclaré notamment « La crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement, c'est une crise des droits de l'homme, de la justice et de la volonté politique. Des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté. Nous devons les démanteler. » Voilà. Et personne ne prend, la pauvre, il ne s'agit pas de l'accabler, mais personne ne s'interrogera sur ce phénomène où les adultes abdiquant toute responsabilité, là aujourd'hui on parle beaucoup de la responsabilité des adultes pour une autre affaire, mais face justement à une jeunesse qui est peut-être conditionnée, on ne dit plus rien. Or, cela prête à réflexion et peut-être à rire, sauf que le rire engagé ne veut pas entendre ça.
Il a fallu quand même des siècles et des siècles pour arriver à ce que dans un petit coin du monde, l'école soit gratuite, laïque et obligatoire.
Voilà.
Et on fait un triomphe à une jeune femme qui dit qu'il faut faire la grève de l'école pour sauver la planète. Mais c'est une horrible chose, puisque la pire des injustices et la pire des violences, c'est l'ignorance. Donc, il y a quelque chose déjà là qui est épouvantable. Je voudrais juste revenir un moment sur l'histoire du pamphlet. Le pamphlet, c'est un enfant de la terreur. C'est un enfant des listes de gens à condamner. C'est un enfant de la terreur. Et je pense que c'est un des outils du totalitarisme. Ça prépare quelque chose. C'est une nostalgie d'une violence extrême, d'une barbarie. C'est une lassitude des droits. Des droits communs à tous les humains. C'est une fatigue des droits dont on jouit, et du respect et d'une politesse. Je pense que le dernier dialogue possible entre des gens qui pouvaient pas se blairer, c'est celui de Voltaire et de Rousseau. Après, ils ne se sont plus écoutés. Ces gens-là se sont tapés dessus parce qu'il y en a un qui était du côté du mal, Joseph de Maistre, les autres du côté du bien. C'est devenu impossible, et encore plus impossible au XXe siècle, et encore plus impossible au XXIe siècle. Le dialogue est impossible parce que c'est une question de morale et pas d'écoute de l'autre. C'est une position morale. Et c'est extrêmement pénible. Les gens, vous dites dans votre livre, et ça je suis pas d'accord du tout avec vous, vous dites de surindividualisme. Une société qui consomme, machin, bon. Moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'au contraire, l'individu est sursocialisé. Il fait partie de groupes, il a l'humour d'un groupe, il y a les pensées, les idées politiques d'un groupe, d'un clan, d'une communauté, d'une secte, d'un sexe.
Je le dis un peu. Voilà. Seuls les juifs peuvent faire des blagues juives,
voilà,
etc.
Il y a quelque chose en commun qu'on n'a plus. Et peut-être que c'est l'humour, finalement, qu'on n'a plus en commun, précisément. Il y a quelque chose en commun que l'on n'a plus, et c'est extrêmement grave. On avait dit, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait qu'on ait quelque chose en commun, tous en Europe, pour ne pas ressembler à la société d'avant, pour ne pas que ça recommence. Et là, on n'a plus rien en commun. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans cette affaire. L'humour est un canari dans la mine. Ça montre un état de la société. Et le fait qu'il n'y ait plus d'humour en commun, est quelque chose, est d'une alerte.
Je voulais faire le boulot d'Alain à sa place, mais il y a.
Ah bon, c'est pas mon boulot.
Il y a un chroniqueur cette semaine qui a fait une chanson sur Jésus.
Ah, oui, c'est vrai.
Et qui
m'ôte le pain de la bouche. Là,
alors,
BD.
Il n'a pas été viré. Je voulais savoir, puisqu'il a dit, je crois, autour de lui, on a dit que c'était Charlie, de sa chronique. Je voulais savoir, puisque vous avez dirigé Charlie, ce que vous aviez pensé de cette
chronique. Alors attendez, c'est Frédéric Fromet dans l'émission Par Jupiter de Charline Van Hennecker. Dans la cadre de la lutte contre l'homophobie, il a chanté une chanson, Jésus est pédé, Jésus écoute Mylène Farmer, Jésus est membre des LGBT, sur la croix, pourquoi l'avoir cloué, pourquoi pas l'avoir enculé, Jésus est pédé, il n'y a pas que l'hostie qu'il faut sucer. Voilà quelques-unes des paroles que j'ai retenues. Et il a invoqué le blasphème en disant « le blasphème est un droit ». On est Charlie. Je crois qu'il a subi quelques remontrances. Il n'a pas été viré. Cet épisode invite à réfléchir. Alors, j'aurai un certain nombre de conclusions à tirer, mais je laisse Philippe Val répondre avec BD.
Moi, déjà, ce que je trouve pénible et désagréable dans ce que je viens d'entendre, que je n'avais pas entendu, c'est qu'il y a une homophobie très violente déjà là-dedans. Jésus est un personnage mythique. On peut en faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une homophobie incroyable.
Non, parce que c'est dans le cadre de la lutte contre l'homophobie qui
fait
ça. Ah oui, c'est l'idée. Bon, lui-même, d'ailleurs, est peut-être homosexuel et il dit « Jésus est un pédé » et « arrêtez de nous emmerder, les catholiques, avec votre propre homophobie ». C'est ça qu'il veut dire.
Ok, c'est pas bien net parce qu'il y a une façon de dire quand même, une façon de parler de l'homosexualité qui est un peu quand même insultante. Très, enfin bon, passons. Mais
je suis pas sûr que ça.
Bah alors qu'importe, j'ai mal compris. De toute façon, j'ai pas entendu cette chronique. Après, dans la plaidoirie de Richard Malka au procès des caricatures, on a brandi des unes sur différentes religions. On traite mal tout le monde. Sur Jésus, Marie, machin. Bon, on traite mal tout le monde. On se fiche du mythe, c'est une des fonctions, mais de Mahomet aussi. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et là, le jeune homme qui parlait dans cette chronique se garde bien de dire la même chose du prophète. Parce que on ne le fait plus. Pourquoi on ne le fait plus? Parce que ça coûte la vie. Parce que on risque de se faire assassiner si on le fait. Quand on parle de Jésus, on risque rien. Ah voilà. Évidemment.
On peut préciser qu'il y a deux gardes du corps.
Il y a deux officiers de sécurité qui vous attendent, Philippe Val. Mais justement, c'était la réflexion que m'inspirait cette chronique. C'est-à-dire, la satire, qui n'est qu'une des formes de l'humour, a du sens, et elle est même sans doute nécessaire, quand elle s'attaque aux forts. Pas quand elle s'acharne sur les faibles. Quand Balkany est à terre, c'est pas la peine de se moquer de Balkany. Carlos Ghosn, dans sa prison, subissait un sort injuste. Il était victime d'une justice féroce qui veut faire avouer avant le procès pour obtenir 99,5% de condamnation. Et là, il dit qu'il est Charlie. Mais dans Charlie, justement, on expliquait le numéro anniversaire, que la pièce tirée de la lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes de Charb ne pouvait pas être jouée. Elle était décommandée à cause d'associations qui disaient, même le MRAP, qu'elle était absolument raciste. Or, les catholiques aujourd'hui, en France, n'ont aucune autorité, aucun pouvoir. C'est cela qui me gêne.
C'est cela.
C'est ce choix des faibles et c'est cette manière de s'écraser devant les forts.
D'ailleurs, ça n'est pas vrai que pour la religion. Ce qui est fort aujourd'hui dans le monde journalistique, c'est Edoui Plenel. Edoui Plenel ne fait jamais l'objet d'aucune blague dans les médias. Charlie Hebdo est le seul journal qui se soit payé frontalement Edoui Plenel. Ça, c'est le rôle d'un journal satirique. Vous voyez, et Dieu sait s'il l'a mal pris, et Dieu sait si ça a fait un scandale. Mais c'est ça qui est sain dans une société, finalement. Oui, c'est de s'attaquer à des forces.
Avec BD.
Je voudrais dire, parce que j'ai eu l'honneur d'écrire un petit peu dans Charlie Hebdo récemment, le numéro anniversaire du 7 janvier dernier était très intéressant, puisque ils ont une nouvelle cible, qui n'est plus la religion, mais qui est les réseaux sociaux. Donc il y avait une couverture avec un type dont la langue était écrabouillée par un smartphone, et je trouve que ça devient, c'est une intéressante évolution de se dire aujourd'hui l'ennemi suprême, c'est finalement espèce de meute numérique qui, par Twitter, par Facebook, par Instagram, s'attaque à tous les sujets et est en permanence offensé. Comme dit Bret Easton Ellis, offended, everybody's offended. C'est aujourd'hui le sport national. Et c'est l'ennemi, celui-là, le vrai ennemi des humains.
L'ennemi, c'est la meute, et en même temps, on a affaire aujourd'hui, souvent, à un rire en meute.
Oui.
Le rire, si vous voulez, se fait très souvent l'écho de la meute. Oui. On rit de des personnes dont tout le monde rit ou qui scandalisent tout le monde.
Il y a un côté hyène. Il y a un côté hyène qui
c'est un pilori.
Est effrayant.
C'est un pilori.
Oui, et je me souviens, parce qu'il faut dire les choses, je ne veux pas me présenter comme quelqu'un de propre, ça ne m'a jamais intéressé, et dans tous mes romans, le personnage le plus dégueulasse, c'est évidemment Octave. Et pendant tout le temps où j'étais donc obligé de trouver des idées le jeudi matin, je faisais comme les autres, c'est-à-dire que je regardais Yann Barthès, je lisais Le Canard Enchaîné ou Charlie, et il y a chaque semaine quelqu'un qui est cloué au pilori. Et il m'est arrivé de m'en servir parce que c'était plus facile. En fait, c'est assez facile de trouver la personne dont on va se foutre pendant une semaine et de taper dessus. On obtient un rire quasi automatique tout en enfonçant quelqu'un qui est à terre. Et j'étais vraiment, pour moi, à un moment, j'ai participé de ce monde-là et je dois dire que ça m'a dégoûté aussi de ce métier.
Oui, justement parce que la dérision n'a de sens que si elle peut être une dérision de soi. Vous dites, Parango, c'est le personnage le plus dégueulasse. C'est l'auto-ironie qui sauve l'ironie, en quelque sorte.
Tous les grands.
Un humour qui n'a que des victimes extérieures, c'est plus tout à fait l'humour. Mmh.
Bien sûr.
Philippe Varin.
Non, bien sûr. L'humoriste, c'est quelqu'un qui fait rire avec ses failles.
Et à ses propres dépens.
À ses propres dépens. Et qui fait penser à des tas d'autres gens. C'est pour ça que ça fait rire. Et que ça fait rire d'un rire de surprise. On se retrouve dévoilé par les failles de l'humoriste. Oui, par ses faiblesses. Par sa bêtise aussi.
Je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on me reproche pas mal. Je lis un peu partout que, oui, il critique le rire, mais il en a énormément profité. Et ça a été, oui, effectivement, ma génération, c'est la génération de la dérision. Et j'essaie d'analyser et de faire un bilan de ça. À quoi ça nous amenait, au fond, d'être constamment ironique depuis 40 ans ? Un peu dans une impasse. Pendant ce temps-là, le monde ne change pas.
C'est-à-dire que le ricanement a remplacé la culture. C'est ça le problème.
Oui.
Et ça, je sais que vous venez de Canal, l'époque de Canal. Moi, je pense que Canal a été un moment décisif dans l'histoire culturelle de la France d'après-guerre. C'est le moment où, officiellement, le ricanement a remplacé la culture.
Ça me fait penser à cette très belle phrase de Jean d'Ormesson. La dérision règne partout, elle a remplacé la gaieté.
C'est vrai. Oui.
Et peut-être la culture aussi.
Oui,
mais alors justement, est-ce que c'est pas l'humour d'après l'humour, le rire d'après l'humour, et là, j'élargis un peu les choses. J'ai trouvé une blague extraordinaire à la fin de votre livre. Tu finiras clochard comme ton Zola, Philippe Varin. Je lis la blague. Deux juifs morts à Auschwitz évoquent leurs souvenirs en rigolant dans un coin tranquille du paradis. Tu te souviens quand Léon a voulu s'échapper et s'est électrocuté contre la clôture ? Oui, oui, répond son ami entre deux hoquets de rire. Et quand on est sorti un matin du cabanon et qu'on a découvert les 12 pendus qui se balançaient dans la cour, et il riait de bon cœur. Dieu, attiré par la bonne ambiance, s'était approché pour écouter. Il était scandalisé. Mais ça va pas, non? Ce que vous racontez n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans? Les deux amis lèvent la tête vers Dieu et le regardent en silence quelques secondes avant de lui répondre. Tu ne peux pas comprendre, tu n'étais pas là.
Ouais, c'est, hein, très, très bien.
C'est extraordinaire quand même. C'est vrai, on éclate, on se bidonne pas.
Oui,
mais
oui.
C'est quand même une blague qui donne à penser. Quoi.
Bien sûr. Ouais.
Et on s'interroge effectivement. Les humoristes sont omniprésents, mais est-ce que leur rire n'est pas en train de tuer l'humour ?
C'est un vertige, le rire. Le rire est un vertige. Ça n'est pas une leçon de morale, le rire. Le rire bouscule profondément notre morale.
Oui.
Et si ça la bouscule pas, eh bien c'est fichu, c'est pas bon.
Et j'ai l'impression qu'en fait on leur demande un travail impossible. C'est pour ça que je voudrais prendre la défense des humoristes, puisque l'ayant fait pendant 3 années, je peux vous dire, on est angoissé à partir d'une semaine avant. Pour 3 minutes, on peut avoir des nuits blanches. Mon livre raconte comment Octave ne trouve pas d'idée pendant toute la nuit et est totalement désespéré. C'est très très difficile. C'est un métier quasiment impossible. Et l'autre chose qui est vraie, c'est que pour moi, l'humour, c'est le doute. C'est-à-dire, c'est de tout d'un coup avoir cette impression que on ne sait plus très bien. Et quand vous parliez de fragilité, quoi. Et là, le problème, c'est que, en fait, une solution à l'angoisse de l'humoriste, c'est de prendre des sujets d'actualité et d'aller dans le même sens que les autres. C'est un peu une solution de confort. Douter à l'antenne, c'est pas très audible. Ça devrait tout le temps être le cas, mais finalement, une solution de facilité, c'est de devenir un militant de quelque chose. Voilà, donc de sauver la planète, sauver les migrants,
voilà, c'est ça.
Protéger les pauvres. Et finalement, vous avez des gens qui sincèrement croient qu'ils sont drôles, alors que finalement, ils expriment une pensée politique.
C'est même bizarre que autant de gens qui prétendent sauver la planète, déjà c'est un sujet d'humour à travailler extraordinaire.
Oui.
Voir toutes ces petites personnes dont nous sommes dire « moi, je vais sauver la planète », c'est quelque chose qui devrait être exploité dans l'humour. Là, en l'occurrence, ça ne l'est pas beaucoup, et c'est bien dommage.
Et ça pose une question.
Parce que on est dans la métaphysique, on est dans quelque chose de pas raisonnable,
oui.
On est dans un au-delà du réel. L'humour nous fait descendre sur terre brutalement,
oui.
D'une façon très jouissive aussi, hein. Mais c'est une joie un peu tragique toujours, l'humour. Voilà, on peut toujours en parler pendant des heures, c'est très difficile d'en faire.
Mais bien sûr.
Beaucoup plus facile d'en parler.
Il n'y a pas plus ennuyeux qu'une émission sur l'humour.
Mais non, rassurez-vous, cette émission est absolument palpitante.
Mais ce que je me disais, sur le plan, pour rehausser le niveau philosophique
de
notre conversation.
Je plafonne.
Comment on fait quand on veut faire de l'humour et en même temps être dans le camp du bien? C'est ça le problème.
Voilà.
On parle beaucoup de la bien-pensance. Moi, j'espère que le bien triomphera du mal. Je suis pas pour la destruction de la planète. Loin de là. Mais effectivement. Malheur est plus drôle que le bonheur, si vous voulez.
Il y a des musiciens, des peintres, mettons, qui sont de gauche, d'autres de droite, je ne sais pas, on n'en sait rien, mais ça n'empêche pas ces peintres, qu'on puisse ignorer devant leurs toiles, qu'ils aient été de droite ou de gauche, mais être subjugués par la beauté des couleurs. Vous, par exemple, vous êtes un enfant de Des Esseintes, peut-être, d'une certaine façon. Moi, plutôt Jean Valjean. Mmh. C'est deux courants très différents de la littérature.
Je vous le confirme. Pourtant... C'est un roman très engagé, Les Misérables.
Oui, mais j'aime Les Misérables profondément. Parce que c'est roman chaotique.
Chaotique.
C'est un roman chaotique, oui, merveilleusement chaotique. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer les deux, sans doute, et d'être d'accord sur le geste artistique. Le geste artistique de l'humour, dont on n'est pas forcément capable nous-mêmes, mais qu'on admire profondément.
Alors, vous dites, vous êtes Hugo, et vous dites que Becbédé, c'est Huysmans. Alors, moi, je vais aussi... décliner mon identité, c'est question humour, c'est un peu Suran, qui est un auteur très drôle. Comme il est sur la sellette aujourd'hui, je voudrais lui rendre hommage. Quand vous dites Becbédé, le malheur nourrit l'humour. Et à le malheur, il y a la finitude, la condition humaine, l'absurdité de la condition humaine. Il écoute la radio, Suran. Alors, il n'a pas fait une chronique, mais c'était très court. Ce matin, après avoir entendu un astronome parlant des milliards de soleils, j'ai renoncé à faire ma toilette. À quoi bon se laver encore? Ça c'est. Et
c'est très Woody Allenien, ça.
Comme, oui, comme, oui, absolument.
Aphorisme.
Exactement, oui, oui. Exactement. Et c'est aussi Kundera qui, dans les Testaments trahis, et là vous dites Becbédé, l'humour, c'est le doute. Voilà ce qu'écrit Kundera. L'humour, l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres. L'humour, l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Mais l'humour, pour rappeler Octavio Paz, est la grande invention de l'esprit moderne. Il n'est pas là depuis toujours. Il n'est pas là pour durer, pour toujours non plus. Et le rire, oui. Mais voilà, le rire qui survit à l'humour. Est-ce que nous ne sommes pas un peu dedans aujourd'hui?
Le problème, c'est que l'humour ne peut pas être une profession. C'est comme bien faire l'amour, quand on a la chance de pouvoir bien faire l'amour, ça n'est pas une profession, c'est une occasion que la vie, dans les milliards d'affects qui nous arrivent...
D'ailleurs, voilà. Au passage, il n'est jamais très bon de rire pendant l'acte d'amour. Si quelqu'un rit, c'est mauvais signe.
C'est pas très bien, c'est un peu foutu.
Ça dépend.
Ah bon, d'accord. Vous avez des anecdotes à nous
non,
à partager?
Non, j'ai aucune anecdote à vous fournir. Il est vrai que... Mais comme l'humour est imprévisible, il peut arriver au plus étrange moment. Mais bon, je ferme cette parenthèse audacieuse.
Nietzsche disait quelque chose comme « On reconnaît l'homme de génie à son rire et le grand homme allemand ne rit pas ». Bon, ce n'est pas très sympa pour les Allemands, mais il y a quelque chose de vrai, de profondément vrai là-dedans. Une œuvre de vraiment géniale, les pièces de Shakespeare, les romans d'Hugo, Proust, qui est un humoriste, un satiriste absolument sublime.
Ah oui.
Donc il y a un humour là-dedans. C'était pas un humoriste. Peut-être que c'est la profession qui est un problème. Oui. La professionnalisation d'un truc qui n'est pas professionnalisable.
C'est ce que j'appelle les fonctionnaires du rire.
Les fonctionnaires du rire, en effet.
Parce que c'est un tâcheron, le mec qui écrit ça.
Oui, mais vous aviez des humoristes, vous, quand vous étiez directeur de France Inter.
Mais
vous en avez hérité ou est-ce que vous avez installé?
Ah non, j'en ai hérité. J'ai tout fait. C'était un grand débat entre le président et moi, le président de Radio France à l'époque, de virer tous les humoristes. Moi, je voulais qu'on vire tous les humoristes du 7-9. Et c'était pas possible. Qu'ils aillent ailleurs sur la chaîne, on aurait fait une émission quelque part, mais pas là. Pas là pour répondre à ce que disait Frédéric Becbédé, pour mélanger de façon à ce que le travail d'information... Moi, j'ai vu des ministres très courageux, qui n'avaient pas dormi de la nuit parce qu'ils avaient des réunions, et puis qui arrivaient le matin à 8 heures après avoir dormi 2 heures, et qui... un quart d'heure avant leur interview politique, subissaient une chronique, mais insultante, dégradante. Donc, je disais, mais c'est plus possible. On est une radio de service public. Les hommes politiques doivent pouvoir être légitimés. Ils viennent du suffrage universel. On est dans une démocratie. Alors, je sais que c'est une langue de bois que je suis en train de... Bon, mais néanmoins, il était indispensable que... leur discours soit entendu et un peu entendu, écouté même. Et compris, là, c'était plus possible. Ils étaient tétanisés, ce qu'ils disaient était tourné en dérision. C'est fichu. Mmh. Vous voyez, c'est très dangereux, c'est très antidémocratique. C'est en quelque sorte, c'est comme si la rue, l'humour, c'est l'opinion de la rue, d'une certaine façon, était sans cesse en train de juger, de discréditer le suffrage universel. C'est vraiment la rue contre le suffrage universel. Et le problème que pose cet humour-là, c'est qu'il fait penser que la rue, c'est le peuple. Mais la rue, ça n'est pas le peuple. La rue, c'est 20 000 personnes dans un pays de 66 millions d'habitants. Et vous voyez, il y a cette confusion qui va nous coûter très cher.
Oui.
Qui commence déjà à nous coûter très cher.
Cet humour d'après l'humour contribue à discréditer, je vais dans le sens libéral, la démocratie représentative.
Représentative.
Oui, c'est ça.
Tout ça pour une démocratie participative qui donne la Corée du Nord, si vous voulez.
Quelqu'un avait dit ça courageusement sur l'antenne de Canal+, il y a quelques années, c'est Édouard Baird. Édouard Baird, tout d'un coup, après avoir vu un reportage, je ne sais plus sur quel homme politique, avait dit, écoutez, moi je trouve qu'il y a un mélange qui est dangereux, on devrait séparer les choses, on devrait écouter les hommes politiques qu'on a élus et qui proposent des réformes, on devrait les écouter sérieusement, et puis ensuite mettre la dérision ailleurs, pas forcément mélanger les deux. Et c'était une des premières fois que quelqu'un a dit ça, et je lui rends hommage. C'est vrai que ça paraît tout de suite rabat-joie de critiquer l'humour. C'est quasiment impossible à faire. Hein. Critiquer l'humour, c'est s'attaquer au pouvoir le plus sacré, notamment depuis le 7 janvier 2015.
Alors, justement, mais d'autres l'ont fait avant vous, et notamment un écrivain très drôle, Raymond Queneau. Il y a de la drôlerie chez Queneau. Or, dans un livre intitulé « Le voyage en Grèce », c'est un recueil d'articles. C'est un article publié en 1938. Ce à quoi n'échappent pas nos humoristes modernes, c'est à se considérer comme des gens épatants. Tout ce qui est grand ayant été nié, il ne reste plus qu'eux. Et il dit, il est une force qui tend à tout déprécier et à tout abaisser, et l'on y vient prêter aide. Les médiocres ne peuvent tolérer qu'il puisse exister parfois quelques grandeurs, les humoristes non plus. Et c'est vrai, donc ça c'est une pulsion démocratique aussi. C'est-à-dire, espèce d'égalisation. On décapite tout ce qui dépasse. Oui, et peut-être que les humoristes satisfont ceux d'aujourd'hui. Une passion basse.
C'est une passion égalitariste, exactement. Mais c'est l'égalité d'après 1792. C'est l'égalité robespierriste, celle qui s'égalise avec la guillotine. Enfin, il y a quelque chose de terrifiant, en quelque sorte, là-dedans. Alors, on est dans un état de droit. Après tout, ce ne sont que des mots qui viennent dans des chaînes de télévision et de radio. Mais c'est un terrain dangereux. C'est un terrain dangereux pour la démocratie représentative parce que tout ce qui représente la moindre autorité morale, et Dieu sait si on en a quand même besoin dans une démocratie, après la guerre, on a fait cette erreur, on s'est trompé d'autorité morale. Au lieu de nous donner à aimer Churchill et Jean Moulin, on nous a donné à aimer Che Guevara et Mao, c'est-à-dire deux criminels contre l'humanité. Donc, on a fait une grave erreur. On a pris des moralistes comme maîtres à penser au lieu de prendre des philosophes. Les philosophes sont drôles, les moralistes sont chiants.
Attends, les philosophes sont drôles.
Les philosophes sont drôles. Il y a une drôlerie dans l'étonnement philosophique. Il y a une joie dans l'étonnement philosophique. Il y a une joie dans Jean Kélévitch. Il y en a pas beaucoup dans Sartre. On s'est trompé. On aurait dû prendre Jean Kélévitch à la sortie de la guerre.
Pardon de m'auto-citer, mais parce que l'objection que feront les humoristes à ce type de discours, c'est de dire nous, on est nécessaires parce qu'on s'attaque aux puissants et il faut des bouffons pour des impertinents pour détruire le pouvoir. Et ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Et dans mon livre, je dis que oui, c'est vrai, l'humour s'attaque parfois aux puissants, mais n'oublions pas qu'il est aussi la vengeance des impuissants. Et souvent, il y a aussi cette espèce de jalousie, d'aigreur, et d'envie de détruire ce qui est au-dessus.
Ce qui est au-dessus.
Ce que l'on entend et ce qu'on nous vend pour de l'humour est le produit d'un ressentiment. Et pour moi, l'humour est le produit de l'allégresse. C'est-à-dire le contraire du ressentiment. Une allégresse qui se cogne partout, mais une allégresse. Une allégresse peut-être tragique, mais une allégresse.
Le tragique doit être aussi présent, me semble-t-il.
Bien sûr.
Il est présent chez Cioran. Bien sûr. Et mais écoutez, en tout cas, si les humoristes, certains humoristes professionnels se sentent malmenés et calomniés par cette émission, où nous étions en effet assez d'accord les uns avec les autres, qu'ils se signalent, et je serais très heureux de les inviter dans le studio de France Culture. Et je terminerai par une citation d'un journaliste philosophe qui savait être très drôle, Peggy. « En ce temps-ci, dit Peggy, une humanité est venue, un monde de barbares, de brutes et de mufs. Plus qu'une pambéotie, c'est-à-dire une bêtise totale, c'était l'expression de Renan, plus qu'une pambéotie, une pamuflerie sans limite, un règne de barbares, de brutes et de mufles. Un monde non seulement qui fait des blagues, mais qui ne fait que des blagues, qui fait blague de tout, et qui enfin ne se demande pas encore anxieusement si c'est grave, mais qui inquiet, vide, se demande déjà si c'est bien amusant. » Voilà.
Vous auriez pu citer aussi L'homme qui rit de Victor Hugo. Parce que on a parlé des Misérables, et L'homme qui rit disait
le smiley, fait évidemment, qui est le titre de votre livre, Frédéric Becbédé, fait penser à L'homme qui rit. Ce livre donc est publié aux éditions Grasset. Philippe Val, vous avez publié il y a peu Tu finiras clochard comme ton Zola, aux éditions de l'Observatoire. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Portrait. Mon invité sera Fabrice Luchini. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lachard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Élise Le, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.